Chapitre 11. Paris, boulevard Brune. Djemila se rendait au lycée depuis la porte d'Orléans. Elle pensait à la journée qui allait commencer. À 10 heures, une interrogation écrite de maths. Elle avait vaguement regardé ses cours hier soir, mais elle ne se sentait pas prête à affronter le sujet que le professeur allait lui proposer. De toute façon, on verrait bien, avec un peu de chance. Dans les autres disciplines, le calme plat, pas d'interrogation prévue. Il suffirait de fixer le tableau et de faire semblant de prendre des notes et la tranquillité serait assurée. Les études, ce n'était pas son truc. Heureusement qu'au lycée, il y avait les copines et les copains. Cette année, un copain particulièrement lui avait tapé dans l'œil. Malheureusement, elles étaient plusieurs sur l'affaire. Le ciel était bleu aujourd'hui, avec quelques nuages bien blancs. Cela changeait de la grisaille traditionnelle. Son regard fut attiré par une fumée qui sortait d'une fenêtre en haut d'un immeuble sur le trottoir d'en face. Pas de doute, il y avait le feu. Il fallait prévenir les pompiers. Elle sortit son portable de sa poche. Elle maniait mieux cet instrument que les livres de classe. Elle regarda le numéro de l'immeuble et donna l'adresse aux pompiers, ainsi que son identité. Enfin, il lui arrivait quelque chose d'intéressant aujourd'hui. À la caserne de pompiers de l'avenue Villemain, la sonnette retentit. Le sergent Manuel Cruz sortit de sa chambre, boutonna sa veste et, en sautant sur la barre, arriva dans la salle des camions. Déjà, les hommes de service étaient en place. Le chauffeur avait allumé le moteur. « Direction boulevard Brune, numéro 36. On vient de me signaler un incendie au dernier étage. » Le véhicule sortit du garage et se dirigea en faisant hurler sa sirène vers le boulevard Brune. Au pied de l'immeuble, un attroupement s'était déjà formé. Regardant l'épaisse fumée s'échapper, maintenant, de la fenêtre du dernier étage. On pouvait même apercevoir quelques flammes à travers les vitres. La voiture des pompiers s'arrêta sur le boulevard et, suivant une manœuvre bien rodée, un groupe de pompiers pénétra dans le hall. Ils commencèrent à gravir les marches de l'escalier, deux à deux, le sergent Manuel Cruz en tête. Ils obligeaient les occupants des appartements, attirés par le bruit, à rentrer chez eux et à fermer leurs portes. Déjà, au pied de l'immeuble, arrivait la grande échelle, suivie d'un véhicule de police. Une fumée épaisse commençait à envahir l'escalier. Les pompiers endossèrent leurs masques et continuèrent leur progression. Ils arrivèrent à la chambre de service. Une fumée noire se glissait sous la porte. On sentait la chaleur rayonner à travers le panneau. Le sergent s'éloigna d'un mètre et d'un violent coup de botte défonça la porte. Il s'écarta prestement, déjà des flammes jaillissaient de l'ouverture. Sans leur protection thermique, les pompiers auraient été brûlés. À l'aide de leurs extincteurs, ils effectuèrent une manœuvre bien au point. Arroser le bas des flammes avec une poudre blanche et pénétrer dans la pièce. Derrière les vitres qui avaient éclaté sous la chaleur de l'incendie, un pompier en haut de la grande échelle entreprenait d'asperger le feu. L'incendie fut circonscrit en quelques minutes. Quand la fumée fut moins dense, le sergent put apprécier l'étendue des dégâts. Sur le sol reposait un corps calciné. De la masse charbonneuse s'écoulait un liquide gras mêlé à l'eau de la lance à incendie. Malgré une longue carrière dans le métier, Manuel Cruz ne s'était jamais habitué à ce genre de spectacle. Encore aujourd'hui, il devait prendre sur lui pour dominer sa répulsion. Il se souvenait encore de son premier contact avec l'horreur. Jeune pompier appelé pour un feu d'escalier, il avait été contraint, avec un camarade, de descendre le cadavre d'un brûlé. Son compagnon portait les jambes et lui tenait le corps sous les bras. Il s'en souvenait encore. Ses doigts s'enfonçaient dans la chair cuite et la graisse lui coulait le long des bras. Par la suite, il avait vu bien d'autres horreurs. Noyé, accidenté de la route, homme ou femme décapité par une explosion. Mais il n'avait jamais oublié cette première confrontation à la mort. Des policiers gravissaient les marches dans l'escalier. Les consignes étaient strictes. L'intervention des pompiers était terminée. C'était à la police de faire son travail. Le commissaire Le Pennec avait sur son bureau le rapport du médecin légiste. Un homme avait été retrouvé calciné dans une chambre de service. L'incendie n'était pas la cause de sa mort. D'après l'autopsie, l'inconnu avait été tué par une arme à feu. La boîte crânienne était traversée par deux fois, un petit trou résultant de l'entrée de la balle, l'autre plus important indiquait la sortie du projectile. D'après les diamètres, c'était sans doute un pistolet de gros calibre. La balle, animée d'un mouvement de rotation, avait dû faire de gros dégâts dans le cerveau. Mais celui-ci avait complètement disparu en raison de la température importante de l'incendie. D'après le médecin légiste, l'examen des os permettait de supposer qu'il s'agissait d'un homme jeune, âgé d'environ une vingtaine d'années. La police scientifique recherchait dans les décombres calcinés les balles tirées et tout indice susceptible de préciser l'identité de la victime et les circonstances de sa mort. Pour les pompiers, la chose était sûre. L'incendie était criminel. La forte odeur d'hydrocarbures régnant dans la pièce prouvait que celui-ci avait été volontairement allumé. Le Pennec demanda à son adjoint, le commissaire Dubillard, de le rejoindre dans son bureau. Celui-ci est comme toujours impeccablement habillé, avec un costume en tissu prince de Galles. Il s'assoit dans le fauteuil en pierre. « Tu sais, François, je le répète souvent, mais j'adore tes abeilles. À mon avis, elles témoignent bien de l'activité de la brigade, une véritable ruche. » Tu as raison, mais la ruche va encore avoir du boulot. Jette un coup d'œil sur ce dossier. Dubillard parcourt avec attention le document. Machinalement, il tripote son nœud papillon. Enfin, il lève les yeux. Le Pennec se frotte le crâne, lisse ses moustaches et reprend le dossier. Hervé, qu'en penses-tu ? Si je te dis que cela ne me paraît pas être un accident, tu ne seras pas étonné. Splendide analyse, je n'en attendais pas moins de toi. Évidemment, on pourrait penser à un suicide, mais il n'y a pas d'arme à côté du corps. Je n'avais pas besoin de toi pour faire toutes ces déductions. Je faisais de l'humour. De toute évidence, c'est un crime. Et en plus, l'incendie indique que l'on a essayé de faire disparaître les indices. D'accord avec toi. J'ajouterai qu'il y a eu sans doute préméditation. Il y a de grandes chances pour que l'incendie ait été allumé juste après le crime. Tu te charges de l'enquête ? Oui, commissaire, et je prends avec moi les « cristaux », entre guillemets. De mon côté, j'informe le juge d'instruction chargé de l'affaire. C'est un jeune sorti de l'école de la magistrature. Il en veut. Le commissaire Dubillard appelle les cristaux dans son bureau. Le lieutenant José et Jérémy Cristal sont jumeaux. De faux jumeaux, l'un est aussi brun que l'autre est blond. Néanmoins, leur ressemblance est frappante. Ils ne peuvent nier leur parenté. Très proches l'un de l'autre, ils ont été tous deux dans les mêmes classes, fait les mêmes études, et tout naturellement, ils ont passé la même année un concours pour devenir officiers de police. Dans la brigade, on les appelle les frères Cristaux. « Les Cristaux, j'ai du boulot pour vous, voici le dossier. Une mort suspecte dans une chambre de bonne du 14e. Vous partez avec moi. Dans un premier temps, il faut établir l'identité du cadavre calciné et recueillir les témoignages des voisins. La première personne interrogée par Dubillard et les deux lieutenants est le concierge de l'immeuble. Il n'est pas très coopératif, il n'a rien vu. C'est l'arrivée des pompiers qui l'a fait sortir de sa loge. Devant l'insistance des policiers, il accepte de sortir le livre sur lequel sont inscrits les noms des locataires de l'immeuble. La chambre de Bonne est au nom d'un Iranien, Mahmoud Pamanlavi. Il l'a aperçu lors de l'emménagement, mais depuis, il ne l'a pratiquement pas revu. Il y a tellement de locataires qu'il ne peut pas surveiller toutes les allées et venues. D'après le dossier, l'incendie ayant eu lieu dans la journée, la plupart des voisins de la chambre de Bonne étaient absents. Les officiers de police du commissariat du 14e ont interrogé tous ceux qui étaient là, mais ils n'ont rien soupçonné avant l'arrivée des pompiers. Pourtant, une ou plusieurs détonations ne pouvaient passer inaperçues dans un immeuble où les cloisons sont minces comme du papier à cigarette. Le commissaire Dubillard envoie les frères Cristal au commissariat du 14e arrondissement, avenue du Maine. Les officiers de police auront peut-être des informations sur l'Iranien. C'est le lieutenant Grosminet qui les reçoit. Il pianote sur son micro-ordinateur. L'individu ne figure dans aucun fichier. Cette zone du 14e arrondissement, entre les boulevards de Maréchaux et le périphérique, est remplie d'immeubles sociaux et la population y est très mélangée. Sans y être aussi importante que dans certaines banlieues de la région parisienne, la délinquance, conséquence du chômage et de la promiscuité, est fréquente. L'absentéisme dans les établissements scolaires du secteur est en hausse. Les chefs d'établissement font ce qu'ils peuvent pour pallier le problème. Mais les parents sont difficiles à contacter et parfois refusent même de coopérer. L'arme de la suppression des allocations familiales a dû être abandonnée sous la pression de bonnes âmes plus soucieuses de démagogie que d'efficacité. Il n'est donc pas étonnant que dans les cités du 14e, des bandes de jeunes désœuvrés se droguent et s'adonnent à l'alcool. Les dealers s'enrichissent sur ce terrain pauvre, mais abondant. Dans le quartier, les attaques de femmes seules, de personnes âgées, les vols de motos, de scooters et de voitures sont fréquents. On retrouve les épaves de ces dernières dans un bois avoisinant, Meudon ou Clamart. Les jeunes roulent tant que la voiture a de l'essence. Souvent, elle est incendiée avant d'être abandonnée. Dès lors, retrouver l'Iranien dans ce milieu, où la loi du silence prime sur les lois de la République, relève d'un exploit. Les forces de police font ce qu'elles peuvent. Des délinquants sont arrêtés, mais le plus souvent mineurs. Ils sont conduits dans des centres sociaux et éducatifs, d'où ils s'échappent à la première occasion. Le lieutenant Grosminet a parfaitement intégré toutes ces données depuis qu'il était en poste dans le commissariat. Il a renoncé à traquer les petits délinquants, sachant bien que ce sont des opérations inutiles. Il essaie, avec ses collègues, de s'attaquer à de plus gros poissons, trafiquants de stupéfiants, receleurs, braqueurs, qui souvent se servent de jeunes pour opérer à leur place. Il a compris également qu'il n'y a pas de police efficace sans indicateurs. Théoriquement, la loi interdit une telle pratique. À tous les échelons de la hiérarchie, on le sait, mais depuis longtemps, on ferme les yeux. La société ne peut se défendre contre la criminalité avec des méthodes purement légales. Autant vouloir tricoter avec des gants de boxe. Grosminet a donc quelques indicateurs sur les agissements desquels il ferme les yeux, moyennant des informations sur les gros bonnets. Parmi eux, le Viet, originaire de l'immigration vietnamienne. Il développe sur le secteur un commerce illicite de téléphones portables, de MP3 dont la provenance reste douteuse. Né dans la cité, il connaît la plupart des jeunes et des délinquants. Le Viet a le numéro de portable du lieutenant Grosminet, et le policier lui aussi peut le contacter, à tout moment sur son téléphone. Il lui a déjà balancé quelques belles affaires. Ils ont rendez-vous dans le parc Montsouris, et Grosminet lui demande de retrouver l'Iranien. L'indicateur connaît Mahmoud, pâmant la vie. Il sait qu'il est plus ou moins mêlé à un trafic de hache provenant d'Afrique via l'Espagne. Il n'en a pas la certitude, mais le trafic pourrait concerner aussi des drogues plus dures. Il promet de prévenir le lieutenant dès qu'il repérera l'Iranien. Une semaine s'écoule sans nouvelles. Un samedi, le portable du policier sonne. Le Viet a aperçu Mahmoud pâmant la vie au marché aux puces, le long du lycée François Villon. Il le suit discrètement. Grosminet prévient les frères Cristal qui sautent dans une voiture et, avec gyrophare en action, arrivent rapidement à la porte d'Ido. Les trois hommes doivent se retrouver devant la brasserie d'Ido. Le lieutenant Grosminet contacte le Viet. Il suit toujours l'Iranien au niveau de l'entrée du lycée. Il marche en flânant devant les étals en direction du théâtre Marc Sangnier. Les policiers n'ont qu'à arpenter le marché aux puces dans l'autre sens. Quand ils croiseront l'Iranien, le Viet mettra son index longuement dans une oreille. Les trois lieutenants progressent lentement en direction de la porte de Vanves, croisent une foule bigarrée, passent devant des étalages où on peut acheter des choses aussi variées que des montres, des produits d'Afrique du Nord, des vieilles fripes, du matériel électronique. Ils se déplacent, distants de 2 à 3 mètres l'un de l'autre. Grosminet en tête scrute les visages des passants. Tout à coup, le lieutenant aperçoit au loin son indicateur. Il fixe son attention sur les personnes qu'il croise. Au moment où il passe à côté d'un individu en train de fouiller dans les marchandises d'un vendeur africain, il voit le Viet enfoncer son doigt dans l'oreille. Il dépasse l'Iranien de 3 mètres, fait semblant de s'arrêter devant un marchand d'épices, fait un clin d'œil à son indicateur qui tourne les talons. Les frères Cristal ont compris. À leur tour, ils font demi-tour. Il n'est pas question d'appréhender l'homme dans cette foule. Il faut attendre le moment propice. La traque s'éternise. L'Iranien ne semble pas pressé de quitter le marché aux puces. Enfin, il se décide à poursuivre devant le lycée Raspail. Le lieutenant Grosminet donne alors le signal. L'homme est ceinturé, les bras dans le dos. Un des frères Cristal lui passe les menottes. Et malgré ses protestations, il est amené dans la voiture des policiers, stationnée dans une rue voisine. L'Iranien est maintenant assis dans un bureau de la brigade criminelle. Les frères Cristal et les commissaires Le Pennec et Dubillard l'interrogent. Pensant que les policiers l'ont interpellé pour son trafic de drogue, il est prêt à nier. Il est étonné quand on lui parle de sa chambre de service. Oui, il en est locataire depuis 2 ans, mais il n'y va pas fréquemment. Il habite avec sa sœur dans un appartement à Issy-les-Moulineaux. Cette chambre de bonne sert surtout à ses copains ou lui quand ils veulent y amener une conquête. Il précise, entre potes, cela ne se refuse pas. Eux aussi sont contents d'avoir une piole pour baiser les meufs. Ce n'est pas interdit, n'est-ce pas ? Je paie régulièrement le loyer. À qui l'a-t-il prêté dernièrement ? À Lucien Olanski. Il y a une semaine, il lui a passé les clés. Pourquoi toutes ces questions ? Les policiers le mettent au courant de l'incendie. Il se garde bien de lui parler du cadavre calciné. L'Iranien est étonné. Il n'était pas au courant. Où peut-on trouver ce Lucien? Il habite à Montrouge, chez ses parents. A-t-il son adresse? L'Iranien leur fournit, bien content de s'en tirer à si bon compte. Il a eu chaud. Muni d'un mandat de perquisition, le Pennec et ses hommes débarquent au domicile des parents de Lucien Olanski. Le père est au travail. La mère les reçoit affolée. Qu'a encore fait son fils? Ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à la police. Élève indiscipliné, il a quitté l'école très tôt. En apprentissage, il a été renvoyé plusieurs fois par ses employeurs, lassé de ses retards et de ses absences. Il a été arrêté pour vol dans une voiture. Mais cela ne l'a pas assagi. Il continue de fréquenter une bande du 14e arrondissement. Avec le plus de délicatesse possible, le Pennec apprend à la pauvre mère que, vraisemblablement, c'est le corps calciné de son fils qui a été trouvé dans une chambre de bonne d'un immeuble du 14e. La femme s'écroule en larmes. Le commissaire explique qu'ils sont là, car Lucien est soupçonné de plusieurs forfaits et qu'il a un mandat pour perquisitionner dans sa chambre. Des cheveux sont prélevés sur un peigne, trouvés dans un blue jean. Ils serviront à une identification ADN. Les policiers découvrent, cachés dans une armoire, des autoradios, lecteurs de DVD, MP3, téléphone portable, de l'argent, des chéquiers, des cartes bancaires et des objets divers. Le tout est saisi et emporté à la brigade. Deux jours après, une certitude, la comparaison de l'ADN des os du brûlé et des cheveux est positive. Le cadavre est bien celui de Lucien Olanski. Le lieutenant Grosminet est présent à la brigade criminelle. Son action a été primordiale pour l'identification de la victime. Il ne reste plus qu'à trouver les auteurs de cet assassinat. Le lieutenant examine le butin trouvé chez Olanski. Il sursaute en examinant un stylo nacré avec une plume en or. La finesse prouve que c'est un stylo de femme. Il aperçoit deux initiales gravées sur le corps, I.M. Cela lui rappelle une affaire récente, un vol à l'arraché. I.M. Isabelle Marcilly.